Bonjour, mes frères et sœurs. C'est la fée des pains sans levain. Je vais commencer par vous raconter rapidement une petite histoire. Ce matin, j'ai entendu une autre dame de la congrégation dire quelque chose de très similaire à son fils, mais c'est ma fille qui l'a dit ce matin. Elle m'a demandé, Papa, tu sais quel jour on est? Je lui ai répondu, Oh oui. Je sais quel jour on est. Tu sais quel jour on est? Elle m'a répondu, c'est le jour des 11 pains. C'est le jour des 11 pains. Elle n'a pas dit sans levain. Elle s'en est approchée. C'était les 11 pains. En fait, curieusement, une autre dame de la congrégation m'a raconté exactement la même histoire avec son fils, qui prononçait sans levain de la même manière quand il était plus jeune. Elle a alors immédiatement demandé si on pouvait manger des beignets. Elle ne comprend pas tout à fait, elle ne saisit pas encore tout à fait la signification de ces jours, mais les enfants sont amusants. Quand j'étais enfant, mes frères et moi, on regardait l'homme le plus fort du monde. Combien d'entre vous ont entendu parler des compétitions de l'homme le plus fort du monde? Depuis que je suis tout petit, ça me fascinait. On ne suivait pas ça de près quand on était jeune, mais je regardais quand même. Et chaque fois que c'était à la télévision, j'étais tout excité parce qu'il y avait ces gens immenses qui lançaient des objets énormes par-dessus de la haute barrière, et il faisait du tir à la corde ou soulevait ses pierres d'Atlas géantes, peu importe ce que c'était, ils avaient ces compétitions qui faisaient appel à la fois à la force et à l'endurance. Et ça me fascinait. J'adorais ça. J'adore The World's Strongest Man. Et ça continue encore aujourd'hui. Je ne le suis pas de très près, mais ça transmet très bien ce message. Il y a un homme nommé Eddie Hall, qui a remporté The World's Strongest Man ces dernières années. Et il a accompli un exploit que le monde n'avait jamais envisagé ni même cru possible auparavant. Auparavant, il détenait le record du monde du soulevé de terre. Or, le soulevé de terre consiste simplement à prendre la barre et à la soulever du sol. C'est un mouvement assez simple, mais il détenait le record du monde du soulevé de terre. Je crois que c'était 465 kilos. Or, la plupart des records battus le sont d'un kilogramme, 2 kilogrammes, 5 livres, 10 livres, quelque chose comme ça. Des augmentations très modestes. Il était déterminé à battre le record et à passer directement à 500 kilogrammes. Il est donc allé bien. Bien, bien, bien au-delà de ce qu'aucun être humain n'aurait pu imaginer. Et il était déterminé à le faire. Et il l'a fait. Il a battu le record du monde de soulevé de terre à 500 kg, établissant ce record mondial en 2016. C'était il y a seulement 10 ans. Quelque chose que le monde ne pouvait pas, personne d'autre ne pouvait même soulever 465 kg. Maintenant, 500 kilos, ça fait plus de 1100 livres pour nous, aux États-Unis. Il est donc passé de moins de 1000, ou d'environ 1000, à 1100. Essayez d'imaginer ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vraiment saisir très facilement. Mais depuis 2016, quelque chose de fascinant s'est produit. Combien de personnes pensez-vous, depuis lors, on pourrait penser que, eh bien, parmi toutes ces personnes au cours des 6000 dernières années, personne n'a pu soulever, peut-être que des gens l'ont fait il y a très longtemps, et que nous ne le savons pas. Cela n'a pas été consigné, mais personne depuis 2016 n'a pu soulever 500 kilos. Et maintenant, on pourrait penser, eh bien, personne d'autre ne l'a probablement soulevé depuis. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il y a entre 5 et 10 autres personnes qui ont soulevé 500 kilos depuis. Et certaines d'entre elles en font des séries, des répétitions. Elles en font deux séries. Ce qu'est dit ou l'a accompli m'a fasciné. Il a brisé une barrière mentale que l'on croyait infranchissable. Il a réalisé quelque chose que ni lui ni le reste de l'humanité n'aurait jamais pu imaginer. Roger Bannister, si vous savez qui c'est, a fait la même chose en 1954 en franchissant le mile en moins de 4 minutes. Courir un mile en moins de 4 minutes était, avant l'époque de Roger Bannister, quelque chose que l'on ne croyait tout simplement pas possible. À ce jour, depuis 1954, plus de 2300 personnes ont couru un mile en moins de 4 minutes. Je ne ferai pas partie de ces 2300 personnes, pas plus que je ne ferai partie des 5 à 10 personnes qui ont soulevé 500 kg au sol. Mais ce que j'essaie d'illustrer avec ces personnes, c'est qu'elles ont un état d'esprit tout simplement unique. Elles sont capables de franchir des barrières que l'on croyait tout simplement impossibles à franchir avant leur époque. J'étais enfant. J'adorais faire du skateboard quand j'étais jeune. Il y avait un homme qui s'appelait Tony Hawk. Combien d'entre vous ont entendu parler de Tony Hawk? D'accord. Beaucoup de gens. Et je parie que beaucoup de ceux qui ont levé la main aujourd'hui, beaucoup de frères, n'ont jamais fait de skateboard, ni ne savent vraiment rien de plus sur Tony Hawk que son nom. D'accord. C'était un skateur célèbre dans les années 1990. Et s'il était si célèbre, c'est parce qu'il a fait quelque chose que personne d'autre ne pensait possible avant qu'il ne le fasse. Il a réalisé ce qu'on appelle un 900 sur une rampe de verre, où l'on descend, puis on remonte cette rampe. Il est remonté et a effectué 2,5 tours sur son skateboard avant d'atterrir. Et pour nous tous, on ne comprend pas vraiment ce que c'est, mais c'était un exploit. Personne n'avait jamais fait ça avant. Et maintenant, on a des jeunes de 12 ou 15 ans qui font des 900. Comment est-ce possible? Ce n'est pas qu'il ait fait quelque chose de physiquement impossible. C'est qu'il a brisé une barrière mentale qui n'avait jamais été franchie auparavant. Il a ouvert l'esprit des autres, y compris celui des enfants, en leur faisant croire qu'il était possible de réaliser un 900. On ne sait même pas exactement combien de personnes ont réussi ce 900, car on parle de 15 à 20 personnes. Ce sont des gens dont on ignore les noms. On ne se souvient pas d'eux. Mais de qui se souvient-on? De Tony Hawk. Et beaucoup de personnes dans cette salle ont entendu son nom. Chuck Yeager, en 1947, a franchi le mur du son. Avant cela, on ne pensait pas que c'était possible. À peine 20 ans plus tard, le premier avion habité, entre 1947 et 1967, atteint 6,72 fois la vitesse du son. Et on pourrait continuer ainsi indéfiniment. Les histoires sont innombrables. Il y a toujours des gens qui franchissent des barrières. Les premiers à avoir gravi l'Everest en 1953, juste un an avant que Roger Bannister ne batte le record du mile. Aujourd'hui, 7500 personnes ont réussi à gravir l'Everest. Et beaucoup de gens, y compris des Sherpas, l'ont fait plusieurs fois. Ils montent et descendent comme si de rien n'était. Mais avant 1953, on pensait que c'était un exploit impossible. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est d'un concept, la règle des 40%. La règle des 40% est un principe de force mentale selon lequel, lorsque votre esprit vous dit que vous êtes épuisé et à bout, que vous devriez simplement abandonner, vous n'avez en réalité atteint que 40% de votre véritable capacité physique ou mentale. Ce concept a été conçu et créé par les Navy SEALs, puis popularisé par eux. Il suggère qu'il existe une réserve inexploitée de 60% de potentiel au-delà de votre zone de confort. C'est là tout le problème. Beaucoup de gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Sans parler de franchir des barrières colossales, comme être le premier à soulever 500 kg au soulevé de terre ou le premier à courir le mile en moins de 4 minutes. Voici un petit exemple de la règle des 40% imaginée par les Navy SEALs. Imaginez que vous courez et que vous avez l'impression de devoir vous arrêter parce que vous êtes épuisé. Nous avons tous déjà fait du jogging, participé à des courses ou sommes sortis courir. Une fois que vous vous sentez fatigué, la règle des 40% suggère, et c'est vrai, que vous connaissez l'expression « second souffle ». Vous avez l'impression de heurter un mur, et tout à coup, vous pouvez retrouver un second souffle si vous continuez à vous dépasser. C'est exactement ce dont parle la règle des 40%. Peut-être avez-vous déjà passé des nuits blanches à étudier. J'étais à l'université en architecture, et j'ai souvent fait des nuits blanches. Je peux en témoigner. Si vous continuez simplement à repousser vos limites un peu plus loin que ce que vous croyez possible, si vous avez suffisamment de caféine ou tout autre stimulant pour vous aider, vous tenez encore 20 ou 30 minutes de plus, et vous pouvez encore vous pousser à faire plus que ce que vous pensiez possible. Dans des situations stressantes et sous haute pression, comme parler en public ou participer à une compétition, certains peuvent se sentir dépassés. Votre instinct est alors de reculer, de paniquer ou de vous cacher derrière les rideaux, par exemple. Mais si vous persévérez et continuez à vous donner à fond, vous réalisez que vous pouvez supporter plus de pression que vous ne le pensiez. C'est ça, la règle des 40%. Et beaucoup de gens, ces personnes exceptionnelles sur Terre, qui ont brisé ces barrières mentales et physiques, ont appliqué cette règle. Or, si des êtres humains, des personnes sans le Saint-Esprit de Dieu, peuvent accomplir ce genre d'exploit, en franchissant des barrières mentales et physiques jugées impossibles, à quel point pouvons-nous accomplir davantage en sachant que nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous? Le Saint-Esprit de Dieu est le même esprit qui a créé l'univers, remarquez bien. Le même esprit qui, lorsque vous regardez dehors et que vous voyez les belles fleurs, a conçu ces fleurs. Il a conçu les nuages dans le ciel et les écosystèmes. Il a conçu nos corps humains. Dieu ne nous a pas seulement donné la connaissance de qui il est. Il nous a donné une partie de ce qu'il est, son Saint-Esprit. Ainsi, son Saint-Esprit est en nous. C'est quelque chose que Tony Hawk n'avait pas. C'est quelque chose qu'Eddie Hall n'avait pas. Roger Bannister ne l'avait pas. Chuck Yeager non plus. Ils ont été capables d'accomplir des choses que l'on croyait inimaginables. Mais ils n'auraient jamais pu atteindre ces objectifs ambitieux s'ils ne s'étaient pas dépassés. Et, mes frères, ils se sont dépassés, et nous le pouvons aussi. Nous le pouvons aussi. À la sortie de la Pâque, pendant les jours des pains sans levain, nous sommes en fait dans une excellente position en ce moment. Réfléchissez à où nous en sommes. Vous pouvez ouvrir votre Bible au chapitre 13 de la deuxième épître aux Corinthiens. Nous venons de sortir de la Pâque, nous nous sommes profondément examinés. Nous avons longuement réfléchi à où nous en sommes, à ce que nous pourrions améliorer, aux choses que nous pourrions mieux faire, et à celles que nous faisons déjà bien. Et le chapitre 13 de la deuxième épître aux Corinthiens nous montre ce que nous étions censés faire avant la Pâque. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Il est écrit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne savez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés ? Nous devons nous examiner. Le mot « examiner » est « praso ». Il signifie « tester » ou « scruter ». Nous l'avons fait. Nous nous sommes examinés. Nous nous sommes éprouvés. Nous nous sommes mis à l'épreuve. et le mot éprouvé est dokimazo. Cela signifie tester, approuver, autoriser ou discerner. Nous nous sommes regardés en profondeur et avons cherché à discerner les domaines dans lesquels nous pourrions nous améliorer dans nos vies. Cela signifie également essayer ou procéder à un examen approfondi. C'est ce que signifie éprouver. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Vous avez déjà fait le point sur vous-même. Cela devrait être au premier plan de nos pensées maintenant que la Pâque est derrière nous et que nous sommes dans les jours des pains sans levain. Nous sommes ici pendant les jours des pains sans levain, cherchant à écarter le péché de nos vies, à savoir les péchés mêmes que nous avons reconnus lors de la période d'introspection précédant la Pâque. Nous avons donc déjà fait ce bilan. Ma question à nous tous aujourd'hui est donc la suivante, jusqu'où êtes-vous? Jusqu'où suis-je prêt à aller pour m'améliorer ou surmonter les obstacles dans les domaines que nous avons examinés? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à être comme Tony Hawk, Eddie Hall ou Roger Bannister? Car ce qu'ils nous ont montré, c'est que nous n'avons pas besoin d'être comme eux. Nous n'avons pas besoin d'être exactement comme eux. Mais le principe de L, c'est ce que nous devons tous appliquer. Nous devons tirer la leçon qu'ils nous ont donnée, vous et moi sommes capables de bien plus que ce que nous pensons possible sur le plan physique, mental et spirituel. Nous nous imposons des limites, souvent inutilement. Nous pensons, oh, c'est trop dur. Ça risque d'être trop difficile. Ça prendra trop de temps d'appliquer ces choses dans ma vie, quelles qu'elles soient. Mais au bout du compte, nous pourrions souvent regarder nos limites et nous dire, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est nous demander, comment pouvons-nous repousser nos limites? Comment pouvons-nous les élever? Nous nous imposons des limites artificielles, à nous-mêmes et à nos capacités. Et ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est de la manière dont nous pouvons dépasser ces limites perçues que vous et moi avons. Nous les avons tous. L'humanité a perçu des limites à ce qu'elle pense être physiquement possible. Mais il faut des personnes exceptionnelles pour dépasser ces limites perçues. Et vous et moi, nous les avons tous. Nous devons simplement les dépasser, nous aussi. Réfléchissez à ceci, jamais dans l'histoire de l'humanité la société n'a connu un tel confort. Nous sommes très désavantagés à la fin de cette époque. Il y a à peine 100 ans, dans les années 1920, seulement la moitié des foyers américains avaient l'électricité. À quelle fréquence pensons-nous à l'électricité dans nos foyers? Nous vivons dans une société où l'électricité est tellement considérée comme acquise que personne n'imaginerait même que les maisons les plus modestes et les plus pauvres n'en disposent pas dans la société moderne. Il y a à peine 100 ans, la moitié du pays avait l'électricité. Et avant cela, c'était bien moins. Seuls les riches avaient l'électricité chez eux. Il en va de même pour les douches chaudes. Les douches chaudes dans les foyers américains n'étaient pas courantes avant les années 1950. Rien que de mon vivant, l'humanité a assisté à l'essor d'Internet. Des outils pratiques qui nous permettent d'accéder aux connaissances du monde entier, alors qu'avant l'invention d'Internet, nous devions consulter des encyclopédies. Nous devions demander à nos parents. Nous devions demander à nos grands-parents, qu'est-ce que c'est? Et que dois-je faire ici? Quelle est la réponse à cette question? Si vous aviez une question sur quoi que ce soit, cela pouvait prendre des jours, voire des semaines, avant d'obtenir la réponse. Tout simplement parce que nous n'avions pas. Même au cours de ma vie, je ne suis pas une personne âgée, mais même au cours de ma vie je me souviens d'avoir grandi avec des encyclopédies et des dictionnaires. On n'avait pas de dictionnaire ni d'encyclopédie en ligne où l'on pouvait trouver la réponse à toutes les questions imaginables du bout des doigts. Encore une fois, cela nous désavantage. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a aujourd'hui, En plus d'Internet? Vous plaisantez? Pensez aux possibilités. Tout dans la société actuelle est conçu pour que nous puissions mener une vie aussi confortable et facile que possible. Tout. Peu importe où l'on regarde, que ce soit les ampoules au-dessus de nos têtes, que l'on considère désormais comme acquises, et que l'on se dise, eh bien, tout le monde devrait avoir une ampoule. C'est une commodité. Avant cela, il fallait en réalité du travail et des efforts pour allumer les lampes à huile ou les bougies chez soi, au risque de mettre le feu à la maison si l'on ne s'y prenait pas correctement. De nos jours, tout dans la vie est conçu pour nous faciliter la vie et nous faire sentir plus à l'aise. C'est pour éliminer toutes les aspérités. Pour s'assurer que nous sommes entourés de coussins et que tout se fait sans effort. Encore une fois, vous pouvez obtenir une réponse à n'importe quelle question en un clin d'œil, simplement en parlant à votre téléphone. Jordan Peterson a dit il y a quelque temps, dans un monde aussi pratique, les gens sont privés de la nécessité d'être forts. Et nous, dans l'Église de Dieu, nous nous sommes également habitués à mener une vie confortable et facile. Nous ne sommes pas comme les saints des époques passées. Pensez à tout ce qu'ils ont dû endurer. Et on nous demande très peu de sortir de notre zone de confort, si je peux m'exprimer ainsi. Mais Dieu ne nous a pas créés ainsi. Il nous a créés pour que nous puissions travailler. Il nous a créés pour que nous puissions faire des efforts et nous dépasser. Car c'est à travers ce genre d'efforts, en nous poussant au-delà de nos limites, au-delà de ce que nous, les S, considérons comme raisonnable et de ce que nous pensons être nos plafonds, c'est en nous poussant au-delà de cela que nous commençons réellement à développer notre caractère. Mais nous sommes confrontés à une lutte extrêmement difficile dans la société d'aujourd'hui, car tout est conçu pour faire exactement le contraire. Elle est conçue pour essayer de nous faciliter la vie, de la rendre plus aisée, plus confortable, et non plus difficile. Ainsi, frères, ce message est difficile pour nous, plus que pour n'importe quelle autre époque ou partie de l'Église de Dieu au cours des 6000 ans d'existence de l'humanité. C'est plus difficile pour nous aujourd'hui parce que nous sommes habitués à mener une vie confortable. Mais nous ne pouvons pas laisser ce même état d'esprit qui s'est emparé du monde entier aujourd'hui s'emparer de nous également. Ouvrez votre Bible au chapitre 12 de Romains. Romains, chapitre 12. Un verset très connu. Un verset que nous avons tous entendu. Un verset à mémoriser. Romains 12. Nous allons simplement lire un verset. Le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les miséricordes de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. On pourrait dire que Dieu veut que nous menions une vie inconfortable. Il ne tient pas à ce que nous menions une vie molle, confortable, douillette. Il veut que nous menions une vie qui comporte quelques aspérités. Cela ne veut pas dire que nous allons entrer dans la fosse au lion comme Daniel. Cela ne veut pas dire que, pensez à toutes les épreuves que les saints des époques et des années passées ont dû endurer. Nous n'avons pas nécessairement à endurer ces mêmes épreuves. Nous sommes confrontés à d'autres épreuves. Mais Dieu ne veut pas que nous menions une vie trop facile. Il veut que nous soyons des sacrifices vivants. Analysons un peu ce verset. Offrez vos corps, c'est-à-dire tout votre être, votre corps physique, votre esprit, tout ce qui vous compose, offrez-le comme un sacrifice vivant à Dieu. Pensez à quel point Dieu prenait les sacrifices au sérieux dans l'Antiquité. Un sacrifice n'était pas quelque chose à prendre à la légère dans l'Ancien Testament. Les prêtres devaient sacrifier des animaux parfaits à bien des égards, sans défaut, d'un âge très précis. On ne pouvait pas simplement choisir le premier animal que l'on voyait dans le troupeau. Les sacrifices, Si nous sommes censés être comme un sacrifice vivant pour Dieu, à l'image de la façon dont les sacrifices étaient sélectionnés au premier siècle, bien avant le premier siècle, bien avant le premier siècle, alors les sacrifices qui étaient effectués dans l'Antiquité étaient très spécifiques, très spécifiques. Il fallait choisir les meilleurs du troupeau. Il devait avoir l'âge requis. La propriété et l'authenticité étaient prises en considération. Il y avait tellement de facteurs à prendre en compte que lorsque nous lisons quelque chose d'aussi simple que de nous offrir et d'être comme un sacrifice vivant pour Dieu, nous devrions nous demander, quel genre de sacrifice sommes-nous? Est-ce que nous nous sacrifions et nous donnons comme si nous choisissions simplement le premier agneau que nous voyons dans le troupeau? Ou est-ce que nous passons en revue le troupeau et sélectionnons le meilleur des meilleurs? Est-ce ainsi que nous nous sacrifions dans nos vies pour Dieu? Cela demande beaucoup plus d'efforts. Ce n'est pas aussi facile, mais c'est ce que Dieu voulait autrefois. Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui? Pourquoi en serait-il autrement aujourd'hui? Se sacrifier dans nos vies signifie que nous sortons de notre zone de confort. Cela signifie que nous éprouvons de l'inconfort. C'est un message sur le fait d'être mal à l'aise dans la vie. Dieu ne veut pas que nous menions une vie facile. Je le répète. Ouvrez votre Bible au chapitre 17 de Luc. Luc 17. Commencez au verset 5. Luc 17, 5. Et les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Ils voulaient grandir. Ils ne voulaient pas rester les mêmes. Ils voulaient grandir constamment. Comment pouvons-nous nous améliorer? Comment pouvons-nous repousser nos limites? Augmentez notre foi. Rendez-nous plus efficaces. Et le Seigneur dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénevé, vous pourriez dire au sycomore, « Sois déraciné et planté dans la mer, et il vous obéirait. » Mais lequel d'entre vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui nourrit le bétail, lui dira, quand il sera entré dans le champ, « Viens t'asseoir pour manger ?» Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi ce que je vais manger, sainte-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Ensuite, tu mangeras et boiras. » Si un serviteur fait ce qu'on lui demande de faire, faut-il nécessairement le remercier pour cela? C'est ce que dit le Christ. C'est simplement ce qu'on attend de lui. Verset 9. Remercie-t-il ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui avait été ordonné? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Verset 10. De même, vous aussi, lorsque vous aurez accompli tout ce qui vous a été ordonné. Nous sommes ici à une assemblée ordonnée. Devrions-nous être loués par Dieu, ou par les hommes, ou par qui que ce soit, les uns par les autres? Oh, je suis si content. Bravo d'être ici pour les jours des pains sans levain. Bravo d'être ici pour les services du sabbat. Je suis si fier de vous. Vous avez si bien fait. Non, c'est simplement ce qu'on attend de nous. Nous sommes censés être ici. On ne devrait pas nous remercier d'être venus au jour des pains sans levain. On ne devrait pas nous remercier d'assister au service du sabbat chaque semaine. C'est simplement ce que nous faisons en tant que chrétiens. Si nous faisons cela, dit le Christ, nous devrions nous dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous ne faisons que ce qu'il était de notre devoir de faire. Dieu veut que nous allions au-delà du simple fait d'être inutile. Il veut plutôt que nous soyons utiles. Et pour cela, nous devons nous dépasser, aller au-delà de ce qui est naturel ou attendu, afin de devenir utile. Nous allons donc aborder trois étapes simples, si vous le voulez bien. Elles s'appuient les unes sur les autres. Des étapes qui permettent d'atteindre l'objectif de repousser nos limites. Comment pouvons-nous prendre notre plafond de 3,6 mètres de haut et le porter à 4 mètres? Comment pouvons-nous le porter à 4,5 mètres à terme? Comment pouvons-nous le porter à 6 mètres de haut? Comment pouvons-nous nous dépasser, tout comme ces grands athlètes sur Terre l'ont fait et ont prouvé au monde qu'il est possible de réaliser des choses qui semblent impossibles? Nous pouvons nous prouver chaque jour que nous sommes capables de faire plus que ce que nous pensons, mais nous devons être prêts à y mettre du nôtre. Nous devons être prêts à nous y consacrer pleinement. C'est ça, le sens des jours des pains sans levain. Nous sommes ici pour essayer d'éliminer le péché de nos vies et de devenir de meilleures personnes. C'est difficile. Ce n'est pas ce qu'enseignent les églises du monde. Les églises du monde disent que vous pouvez venir tel que vous êtes. Nous nous moquons de ce que vous faites ou de la façon dont vous vivez votre vie. Continuez à vivre ainsi. C'est mieux si vous ne le faites pas, mais nous n'allons pas vous dire que vous ne devriez pas. L'Église de Dieu est différente. Dieu est différent. Dieu dit que nous devons changer et nous conformer pour être comme le Christ, qui est parfait en tout point. La première des trois étapes que nous allons aborder aujourd'hui consiste donc à s'humilier pour s'en remettre à Dieu. Sans cette première étape qui consiste à s'humilier pour s'en remettre à Dieu, nous ne pourrons pas passer aux deuxième et troisième étapes. C'est le seul point de départ possible. Ouvrez votre Bible au chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Nous lisons beaucoup de Paul aujourd'hui. Allez donc au chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens, au verset 3. Reprenons donc au verset 1. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des bébés en Christ. Je vous ai nourri de lait et non de viande. Car jusqu'à présent, vous n'étiez pas capable de la supporter, et vous ne l'êtes pas encore maintenant. Car vous agissez encore, vous pourriez ajouter ici, vous agissez encore selon la chair. Car, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des querelles et des divisions, n'agissez-vous pas encore selon la chair? Car, tandis que l'un dit, je suis de Paul, et un autre, je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas charnel? Qui donc est Paul, et qui est Apollo? Mais des serviteurs par qui vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, dit Paul, et Apollo arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Or, nous avons une tâche à accomplir en tant que chrétiens. Nous ne pouvons pas simplement dire, je vais m'en remettre entièrement à Dieu, puis rester assis sur le canapé toute la journée en attendant que des miracles se produisent et que notre caractère se développe de telle sorte que nous nous retrouvions dans le royaume de Dieu parmi les 144 000, ou quoi que ce soit d'autre. Nous ne pouvons pas nous attendre à cela. Paul savait qu'il avait un rôle à jouer. Apollo avait un rôle à jouer. Mais en fin de compte, c'est Dieu qui a donné la croissance, qui a fait croître. C'est Dieu qui soutenait Paul, l'aidant à être efficace dans ce qu'il faisait. Apollo aussi. Ainsi, ce premier point qui consiste à nous humilier pour compter sur Dieu, nous voyons que Paul l'a vécu. Paul n'a pas simplement vécu sa vie par sa propre force et ses propres efforts humains. Il comptait entièrement sur Dieu parce qu'il savait que c'était Dieu qui donnait la croissance. Paul avait son travail à accomplir. La foi sans les œuvres est morte. Nous le comprenons tous. Mais il devait s'en remettre à Dieu dans tout ce qu'il faisait, car il savait que c'était Dieu qui, en fin de compte, allait donner la croissance. Passons à 1 Corinthiens 15, quelques chapitres plus loin. 1 Corinthiens 15, verset 9. Paul parle à nouveau, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Il avait une attitude très humble. « Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce, qui m'a été accordée, n'a pas été vaine. Bien au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres. Mais ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu qui était avec moi. Paul savait qu'il travaillait dur. Il savait qu'il avait un long chemin à parcourir pour prouver à tout le monde qu'il avait changé, car il avait persécuté l'Église comme presque personne d'autre ne l'avait fait. Il avait tué des saints. Il savait donc qu'il devait prouver à tout le monde qu'il avait changé. Et pour cela, il expliquait, « Je ne peux pas y arriver tout seul. Je ne vais pas y arriver tout seul. Je refuse d'y arriver tout seul, mais par la grâce que Dieu m'a donnée. » Dieu était avec lui, et il savait qu'il ne pouvait pas repousser ses limites sans d'abord s'en remettre à Dieu pour le faire. Nous devons faire de même. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, quelques chapitres plus loin. Sans cette étape fondamentale, vous et moi ne serions pas différents de ceux qui tentent de franchir la barre du mile en moins de 4 minutes en comptant uniquement sur leur propre force, comme l'a fait Roger Bannister. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais il ne l'a pas fait avec l'Esprit Saint de Dieu. Il ne l'a pas fait avec Dieu qui le soutenait de la même manière. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Appuyez-vous là-dessus. Si nous sentons que nous voulons vraiment grandir dans notre caractère et repousser nos limites, développer nos capacités dans la vie, nous devons d'abord compter sur Dieu pour y parvenir. Sinon, nous ne sommes pas différents d'Eddie Hall, de Tony Hawk, de Roger Bannister, ou de n'importe qui d'autre. Nous ne faisons que compter sur nos propres forces. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander? Ou avons-nous besoin, comme certains autres, de lettres de recommandation à votre égard, ou de lettres de condamnation de votre part? Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous les hommes. Quoique Paul enseignait aux frères, leurs actions étaient son épître. Car, de toute évidence, vous êtes l'épître de Christ, écrite par notre ministère, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, c'est-à-dire dans les cœurs. Et nous avons cette confiance envers Dieu par Christ. Non pas que nous soyons capables par nous-mêmes, c'est le verset clé, non pas que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Dieu dit que la voix de l'homme n'est pas en lui-même. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Nous ne savons pas ce que nous faisons dans la vie, humainement parlant. Nous marchions à l'aveuglette avant d'être appelés, et Dieu nous a donné son Saint-Esprit pour ouvrir nos yeux, ôter le voile, nous donner la compréhension et la connaissance de ce qui est juste et bon dans la vie, et de la manière dont il veut que nous vivions. Ce n'est donc pas par nous-mêmes que nous vivons notre vie. Le mot « suffisance » signifie « capacité » au verset 5. Permettez-moi de relire ce passage en utilisant ce mot. Non pas que nous soyons capables, par nous-mêmes, de concevoir quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Passons au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens. Dieu nous a donné la capacité, dans la vie, d'accomplir des choses qui semblent impossibles et qui le sont effectivement. Étions-nous capables, vous et moi, de vaincre le péché avant de recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Absolument pas. Nous ne pouvons pas vaincre la luxure, la haine, la cupidité, l'envie. Nous ne pouvons pas vaincre la vanité, la convoitise. Nous ne pouvons pas vaincre ces péchés spirituels profonds sans avoir l'Esprit de Dieu en nous, et nous le comprenons tous. C'est pourquoi nous sommes baptisés. Lorsque Dieu nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné la capacité de surmonter des choses qui étaient tout simplement impossibles. Il nous a donné la capacité de surmonter des choses qui étaient tout simplement impossibles. Il nous a donné la capacité de surmonter des choses qui étaient tout simplement impossibles avant de recevoir le Saint-Esprit. Ainsi, vous et moi sommes déjà comme dit Oletonioc. Nous sommes déjà comme ces personnes, sauf que nous sommes bien plus capables. Bien plus capables. Vous et moi avons déjà surmonté dans nos vies des choses qui semblaient impossibles et qu'il était effectivement avant d'avoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi ce premier point est si important. Vous pouvez faire plus que vous ne le pensez. Vous pouvez vaincre pendant ces jours des pains sans levain. Philippiens chapitre 2, reprenons au verset 1. S'il y a donc quelque consolation en Christ, quelque réconfort d'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque tendresse de miséricorde, comblez ma joie en ayant les mêmes sentiments, le même amour, étant d'un même accord et d'un même esprit. Que rien ne se fasse par esprit de rivalité ou de vanité, mais que chacun, dans l'humilité, estime les autres supérieurs à lui-même. Que chacun ne cherche pas son propre intérêt, mais celui des autres. Nous sommes des sacrifices vivants, frères. C'est ainsi que nous devenons des sacrifices vivants. Nous ne pensons pas à nous-mêmes tout le temps. Nous pensons aux autres. C'est une façon de franchir ce plafond, si vous voulez. Lui qui, étant de nature divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Ce même Jésus-Christ dont nous avons parlé, qui a fini par mourir pour nos péchés, bien qu'il n'ait commis aucun péché dans sa vie. Et, trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, le bûcher. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mes frères, voilà où nous en sommes. C'est cela qui importe. Comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant en mon absence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Car c'est Dieu qui agit en vous pour vous donner à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu vous a donné son Saint-Esprit, quelque chose de si précieux que le monde ne peut le comprendre. Et en nous donnant le Saint-Esprit, il nous a donné la capacité de puiser en Dieu lui-même pour nous aider à accomplir des choses qui étaient impossibles avant d'avoir son Saint-Esprit. Il ne nous donne pas seulement la capacité de vaincre le péché, il nous donne aussi la volonté de le faire. Alors, frères et sœurs, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que certains d'entre nous ont du mal à sortir de leur zone de confort dans la vie? C'est bien plus facile de rester assis sur le canapé toute la journée à faire défiler les actualités négatives, comme on dit. C'est bien plus facile de rester assis à regarder des films toute la journée. C'est bien plus facile de rester assis à jouer aux jeux vidéo. De nos jours, les gens adorent jouer aux jeux vidéo. Il est bien plus facile de faire ce genre de choses que d'avoir ne serait-ce que la volonté de se lever de ce fauteuil et d'essayer de changer, de forger son caractère. Dieu dit qu'il ne se contentera pas de vous donner la capacité de changer votre caractère, de dépasser vos limites, mais qu'il vous donnera aussi la volonté de le faire. Il vous aidera à vous lever du canapé pour commencer, si je peux m'exprimer ainsi. C'est le Dieu que nous servons. C'est le Saint-Esprit qu'il nous a donné, une partie de lui-même, afin que nous puissions accomplir plus que ce que nous aurions jamais cru possible. C'est donc le premier point. Une partie de cela, bien sûr, c'est que si nous voulons avoir davantage de l'Esprit de Dieu en nous, nous devons bien sûr prier pour cela. Nous devons supplier Dieu de nous donner davantage de son Saint-Esprit afin qu'il puisse nous guider pour que nous ayons la volonté et que nous accomplissions ce qui lui plaît. Mais si nous ne franchissons pas cette première étape fondamentale, mes frères, nous ne pourrons pas continuer à repousser efficacement nos limites, à franchir des frontières que nous pensions auparavant impossibles. Voilà donc le premier point. Humiliez-vous pour compter sur Dieu. Une fois que nous avons compris cela, une fois que Dieu nous a donné son Saint-Esprit, le point suivant est assez simple. Apprenez à vous sentir à l'aise dans l'inconfort. Apprenez à vous sentir à l'aise dans l'inconfort. Nous sommes ici dans l'Épître aux Philippiens. Ouvrez au chapitre 1. Philippiens 1, 27. Encore une fois, la société dans laquelle nous vivons est conçue pour nous apporter du confort à chaque occasion. Partout où nous allons, nous pouvons nous sentir à l'aise. Nous n'avons pas à faire beaucoup d'efforts. Nous n'avons pas à trop réfléchir. Nous n'avons pas à sortir physiquement pour travailler. Nous n'avons plus grand-chose à faire de nos jours, car les commodités le font pour nous. Nous n'avons pas à réfléchir. Il suffit de poser n'importe quelle question au téléphone, et il nous donnera la réponse. Alors, mes frères, la prochaine étape consiste à sortir de cette façon de penser. Nous devons briser cette idée dans notre esprit selon laquelle il vaut mieux se sentir constamment à l'aise dans la vie. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous a conçus. Dieu veut que nous nous sentions un peu mal à l'aise. Vous avez entendu M. Pack. Il a déjà utilisé cette expression, « La souffrance déclenche un mécanisme d'apprentissage ». Il y a une raison pour laquelle c'est vrai. On ne dit pas que rester assis sur le canapé avec des coussins et tout ça va déclencher le mécanisme d'apprentissage. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont les aspérités de la vie qui déclenchent le mécanisme d'apprentissage. Passons donc au chapitre 1 de l'Épître aux Philippiens. Commençons par explorer ce deuxième point, apprenez à vous sentir à l'aise dans l'inconfort. Philippiens 1, 27 seulement, que votre conduite, c'est-à-dire votre comportement, soit digne de l'évangile de Christ. Afin que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, d'un même cœur, combattant ensemble pour la foi de l'évangile. Tout dans la Bible tourne autour de l'unité. C'est un sujet totalement différent, mais j'ai pensé le mentionner tant que nous y sommes. Et ne vous laissez en rien effrayer par vos adversaires, ce qui est pour eux un signe évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car il vous est donné, à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ayant le même combat que vous avez vu en moi, et qui est maintenant en moi. Paul a dit aux Philippiens que nous sommes censés souffrir pour l'amour du Christ. Il y a un autre verset qui dit que nous sommes censés partager les souffrances du Christ. Paul a souffert. En fait, il leur demande de souffrir. Pourquoi ? Parce que le caractère ne s'acquiert qu'à travers la souffrance et les épreuves. Les chrétiens n'ont pas le droit de mener une vie douce, facile et confortable. En fait, nous n'en avons pas le droit. Car si nous ne le faisons pas, je suppose qu'on pourrait dire, je retire ce que j'ai dit. Nous avons le droit de le faire. Nous avons le droit de mener une vie douce, confortable et facile. Mais nous ne forgerons pas notre caractère, et nous ne serons pas prêts pour le royaume de Dieu. C'est aussi simple que cela. Donc, si nous voulons vraiment être chrétiens, nous n'avons pas le droit de mener une vie confortable. Nous devons en faire l'expérience, si vous voulez. Et nous verrons ce que cela signifie. Ne t'inquiète pas, il y a beaucoup à dire à ce sujet. Le mot « souffrir » ici, au verset 29, mais aussi « souffrir pour l'amour du Christ », signifie éprouver une sensation, généralement douloureuse. Se forger un caractère n'est pas chose facile, sinon tout le monde aurait un caractère parfait. Cela demande beaucoup d'efforts. Cela signifie sortir de sa zone de confort, se pousser au-delà des limites que l'on croyait possibles, afin de se forger un caractère et d'être prêt pour le royaume. Luc, chapitre 9. Luc 9, verset 23. Et il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à moi, c'est Jésus-Christ qui parle, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra. » Il y a une autre façon de décrire cela. Car quiconque essaiera de préserver son confort tout au long de sa vie et s'assurera de ne jamais rencontrer de difficultés, d'épreuves ou d'obstacles qui le piquent tout au long de sa vie. Celui qui essaie de sauver sa vie et de la rendre plus confortable dans cette vie, celui-là va en réalité perdre sa vie. Ce ne sont pas mes mots. Ce sont les paroles de la Bible. Mais quiconque, verset 24, perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Revenons au verset que nous avons lu dans Romains 12:1. Nous devons être des sacrifices vivants, nous sacrifiant constamment pour être saints et extrêmement agréables à Dieu. Cela demande du travail. Notre sacrifice est-il simplement le premier agneau que nous choisissons, celui que nous voyons dans le troupeau? Ou bien notre sacrifice est-il à la hauteur de celui choisi parmi 200 ou 500 agneaux? Nous passons en revue le troupeau et nous essayons de trouver le meilleur. Nous nous assurons qu'il a le bon âge. Nous nous assurons qu'il a la bonne couleur, qu'il n'a pas de défaut, que tout est parfait chez lui. Comment se passe notre sacrifice? Car si nous perdons notre vie, c'est alors seulement que nous la sauverons. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou se ruine? Si nous essayons de nous conformer à ce monde et de nous y fondre pour ne pas ressentir ses aspérités, mais seulement ses contours adoucis, Dieu dit que nous allons perdre notre vie. Nous ne pouvons pas nous laisser tomber dans ce piège. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa propre gloire, et dans celle de son Père, et des saints anges. Mais je vous le dis en vérité, il y en a ici qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu, et le récit de la transfiguration, et ainsi de suite. Mais que dit le verset 23? Nous l'avons en quelque sorte lu rapidement. Mais le verset 23 dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Paul a exhorté les Philippiens, « Soyez sûrs de souffrir comme le Christ, souffrez pour l'amour du Christ. » Ici, nous pouvons ajouter, « Souffrez chaque jour pour l'amour du Christ. » Assurons-nous que chaque jour, nous essayons de sortir de notre zone de confort afin de développer notre caractère, de construire le caractère que Dieu et le Christ veulent que nous construisions, pour être prêt pour le royaume quand il viendra. Nous devons nous sentir mal à l'aise chaque jour. Encore une fois, c'est le point que nous abordons en ce moment. Habituez-vous à être mal à l'aise. Je vais donc vous poser cette question, à quel point le Christ était-il à l'aise lorsqu'il portait le fardeau de sa propre mort? Passait-il un très bon moment? Était-ce facile pour lui de faire cela? Était-ce facile pour lui d'être trahi la nuit précédente? Était-ce facile pour lui de prêcher l'évangile à tous ces gens à qui il l'a prêché? Sa vie était-elle facile? Chaque jour, il traversait quelque chose. Chaque jour, les apôtres traversaient des épreuves. Ainsi, mes frères, nous devrions tous nous efforcer. Cela peut sembler contre-intuitif, mais nous devrions nous efforcer de nous sentir mal à l'aise chaque jour, d'une manière ou d'une autre. Acte 14 mai, Monsieur Holcombe. Je vis actuellement une période de prospérité. Je traverse une période de grande prospérité. Je n'ai aucune épreuve à affronter pour le moment. D'accord, c'est bien. Je suis heureux d'entendre que nous vivons une période de prospérité, car Dieu met l'une en opposition à l'autre. Les jours de prospérité et les jours d'adversité. Nous pouvons connaître des jours de prospérité. Cela ne veut pas dire que nous devrions simplement mener une vie constamment difficile et ne jamais profiter de quoi que ce soit dans la vie. Bien sûr, nous sommes censés vivre une vie abondante. Ce n'est pas le sujet ici. Mais si nous vivons des jours de prospérité, cela signifie-t-il pour autant que nous ne pouvons pas traverser certaines épreuves? Actes, chapitre 14, verset 19. Il arriva là de certains juifs d'Antioche et d'Iconium qui persuadèrent la foule. Et, après avoir lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais, tandis que les disciples se tenaient autour de lui, il se releva, entra dans la ville, et le lendemain il partit avec Barnabas pour Derbe. Et après avoir prêché l'évangile dans cette ville et enseigné à beaucoup de gens, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, affermissant les cœurs des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, et leur disant qu'il nous faut, à travers de nombreuses tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. Or, nous comprenons tous que des épreuves vont se présenter sur notre chemin. Épreuve, test, le mot « tribulation » signifie ici pression. C'est assez simple. La pression nous vient de notre famille. Elle nous vient de nos collègues. Elle nous vient par le biais d'épreuves de santé. Elle nous vient par tous les moyens de ces sources extérieures qui s'abattent sur nous. Satan, le diable, est un lion rugissant. Il s'en prend constamment à nous, essayant de nous briser, de nous détruire, de nous faire céder sous la pression. Nous savons que les épreuves viennent de sources extérieures. Mais, mes frères, avons-nous déjà considéré que la plupart d'entre nous voient les épreuves comme venant de l'extérieur et ne les voient vraiment que comme venant de l'extérieur? Humainement, nous n'aimons pas la pression. Nous ne l'aimons pas. Nous voulons essayer de l'éviter à tout prix. C'est pourquoi la société s'est développée pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Nous ne voulons pas ressentir de difficultés, alors nous concevons tout dans la vie pour nous sentir aussi à l'aise que possible. D'un point de vue humain, cela semble préférable à l'épreuve. Mais la pression n'est pas toujours extérieure. Qu'est-ce que j'entends par là? Avez-vous déjà pensé que vous pouvez vous mettre vous-même sous pression? Vous pouvez vous imposer votre propre pression, provoquer vos propres tribulations dans la vie, et augmenter directement vos chances d'entrer dans le royaume de Dieu et d'accroître votre récompense. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Eh bien, si nous nous mettons la pression pour faire plus que ce que nous pensons possible, cela forge le caractère. Il n'est pas nécessaire de traverser une épreuve de santé. Il n'est pas nécessaire de traverser une épreuve au travail pour forger le caractère. Ces choses-là le feront aussi. Mais si nous nous mettons la pression et que nous disons, « Tu sais quoi? Je vais aller un peu plus loin. Je vais en faire plus. Je vais étudier davantage ce sujet. Je vais m'assurer de me pousser au-delà de ce que je considère comme naturel. Je préférerais rester assis sur le canapé toute la journée. Mais plutôt que de faire ça, je vais me pousser. Je vais acquérir plus de connaissances, forger davantage mon caractère, faire des choses qui ne sont pas confortables. Et si nous faisons cela, nous nous préparons en réalité encore davantage à entrer dans le royaume. Nous renforçons notre caractère. Nous pouvons choisir de le faire nous-mêmes. Donc, si nous constatons que nous ne vivons pas beaucoup de difficultés dans notre vie, C'est probablement parce que nous ne repoussons pas nos limites, que nous ne testons pas nos capacités, que nous n'allons pas au-delà de ce que nous pouvons faire, que nous ne nous efforçons pas d'être utiles, ce qui est plus facile. Rester assis sur le canapé à la maison, regarder un film, ou passer ce même temps à réfléchir à des moyens d'aider à la collecte de fonds dans la congrégation locale. Peut-être réfléchir à des moyens d'aider les frères qui sont confinés chez eux. Plutôt que de regarder le film, peut-être pourrions-nous décrocher le téléphone et appeler quelqu'un à qui nous n'avons pas parlé à l'église depuis longtemps. Vous savez quoi, mes frères? Vous pourriez bien changer leur vie grâce à cela. Car je vous le garantis, cela change votre vie lorsque vous choisissez cette voie plus difficile. Dans la vie, nous pouvons choisir de nous assurer d'avoir des snacks et des choses de ce genre. Nous allons au magasin et nous nous assurons d'avoir tous ces snacks au travail, ou quoi que vous aimiez faire. Ou bien nous pourrions dire, vous savez quoi? Je vais réduire ce budget de moitié, ou je vais le supprimer complètement et utiliser cet argent au profit de l'œuvre de Dieu à la place, ou quelque chose de ce genre. Où pouvons-nous aller au-delà de nos limites dans nos vies? C'est la question que nous devrions nous poser. Et c'est le moment idéal pour la poser, car nous sommes ici pendant les jours des pains sans levain. Nous savons tous où nous sommes les plus faibles, car nous venons de nous examiner nous-mêmes. Alors, que pouvons-nous faire pour faire bouger les choses dans ces domaines de notre vie où nous voyons que nous sommes déjà affaiblis, que nous devons nous améliorer? C'est dans ces domaines que nous pouvons commencer à apporter des changements progressifs, à nous pousser à nouveau hors de notre zone de confort, à nous mettre à nous-mêmes sous pression. Les épreuves et les tribulations, à travers de nombreuses tribulations, nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Elles ne doivent pas toujours être externes. Nous pouvons nous créer nos propres épreuves si nous nous y soumettons. Et mes frères, vous en tirerez profit. Je vous le promets. Romains, chapitre 5. Romains 5, verset 1. Examinons ce verset sous un angle nouveau. Maintenant que nous comprenons que les épreuves ne sont pas nécessairement des choses qui doivent venir de l'extérieur, que nous pouvons nous imposer des épreuves, nous pouvons nous mettre la pression pour faire mieux. Romains, chapitre 5. Lisons-le sous ce nouvel angle. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons aussi accès, par la foi, à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations. Nous glorifions-nous des épreuves qui nous viennent de l'extérieur? Nous disons, tu sais quoi, j'ai été traité injustement au travail. Je vais m'en glorifier, car je sais que cela signifie que je fais partie de l'Église de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Cela signifie que je vais développer mon caractère. Mais nous glorifions-nous aussi des épreuves que nous nous imposons à nous-mêmes? La pression que nous nous mettons pour faire mieux. Pour atteindre le niveau supérieur. Pour surmonter quelque chose que nous n'avons jamais surmonté auparavant. Vous pouvez soulever bien plus de 500 kilos. Vous pouvez faire bien plus qu'Eddie Hall. Car Eddie Hall, aussi fort soit-il, n'a pas le Saint-Esprit et ne peut pas surmonter les choses que vous et moi pouvons surmonter. Cela demande du travail. Verset 3, et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance, et l'espérance ne fait pas honte, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Repousser nos limites ne signifie pas que nous devons être les premiers à courir le mile en moins de 4 minutes ou à atteindre le sommet de l'Everest. Il est essentiel de commencer par nous pousser à faire un peu plus dans de petits domaines, car c'est là que le véritable changement peut s'opérer. Nous n'essayons pas de faire passer notre limite de 3,6 mètres à 6 mètres. Nous essayons peut-être d'abord de la faire passer de 3,6 mètres à 3,65 mètres. Si vous pouvez repousser cette limite de quelque manière que ce soit, c'est important, car vous surmontez un obstacle. Vous vous améliorez. Vous progressez. Vous ne régressez pas. Mais l'essentiel, c'est que vous et moi ressentions un certain malaise, que nous nous habituions à nous sentir mal à l'aise, tant face aux sources extérieures qu'à la pression que nous nous imposons. Jacques, chapitre 1, dernier verset de cette section. Passons au dernier point. Jacques, chapitre 1. Et le verset 2, est-ce ainsi que nous considérons les épreuves? Lorsque nous nous imposons des épreuves, est-ce ainsi que nous les voyons? Mes frères, considérez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Plus nous traversons d'épreuves dans la vie, plus nous nous habituons à nous sentir mal à l'aise dans la vie, et plus nous avons une bonne perspective sur ces épreuves, au point d'éprouver réellement de la joie lorsqu'elles surviennent, plus vous et moi allons forger notre caractère. Ce qui nous amène au dernier point. Augmenter progressivement. Augmenter progressivement. Si vous avez décidé de faire passer votre limite de 3,65 mètres à 3,68 mètres, vous avez décidé de vous pousser hors de votre zone de confort. C'est bien. Mais, mes frères, voici le point essentiel. À un moment donné, vous vous y habituerez et il vous semblera naturel d'avoir un plafond à 3,69 mètres. Est-ce suffisant? Suffit-il de dire, j'ai repoussé mes limites, maintenant je vais simplement rester à 3,69 mètres. Une fois que nous commençons à nous sentir à l'aise en sortant de notre zone de confort, nous pouvons retomber dans le confort. Alors, que faisons-nous à ce moment-là? Nous allons plus loin. Nous franchissons l'étape suivante. C'est pourquoi ce dernier point est intensifié progressivement. Faites-en plus, puis un tout petit peu plus. Et ensuite, quand cela devient facile, faites encore un tout petit peu plus. Proverbe, chapitre 9. Proverbe 9, verset 8, ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse. Bon, je veux dire, les gens qui se moquent, ceux qui raillent tout ce que tu dis. Si tu vas vers eux avec sagesse, si tu vas vers eux pour les corriger, ils te regarderont, ils se moqueront, et ils n'apprendront rien. En fait, cela se retournera probablement contre toi, comme le disent d'autres versets. Donc, réprimander un moqueur ne finira pas bien, mais réprimande un homme sage, et il t'aimera. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui est un moqueur d'une personne sage? Les moqueurs ne veulent pas changer. Ils veulent rester les mêmes. Ils veulent rester à 3,50 m. Sinon, peut-être même mieux, baissons-le. Abaissez cette barre à 3 mètres, voire à 2,50 m. Les moqueurs ne veulent rien apprendre. Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Les sages, eux, le veulent. Verset 9. Donne des instructions à un homme sage, et il deviendra encore plus sage. Enseigne un homme juste, et il augmentera son savoir. La différence, c'est que lorsque tu es sage, tu sais que la souffrance met en marche le mécanisme d'apprentissage, si je peux reprendre ce terme. Si vous savez cela et que vous savez que vous voulez vous pousser hors de votre zone de confort, Vous voudrez sans cesse progresser et devenir de plus en plus savant. Sage. Les sages ne se contentent pas d'entendre des instructions et des réprimandes. Ils en veulent encore et encore afin de pouvoir sans cesse progresser dans l'apprentissage. Ils savent que leur apprentissage prendra fin soit lorsque le royaume viendra, soit lorsqu'ils entreront dans la tombe. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Lisez le verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus-Christ, vous guide vers nous, et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tous les hommes, comme nous le faisons envers vous. Croître, c'est la voie du chrétien. Nous sommes censés grandir constamment. Quoi qu'il en soit, même dans les domaines où nous nous sommes examinés et où nous avons dit, tu sais quoi? Je m'en sors plutôt bien dans ce domaine. Peut-être y a-t-il un moyen de faire encore mieux. Imaginons que ce ne soit pas difficile pour vous d'avoir de l'amour fraternel. Vous êtes naturellement une personne affectueuse. Vous pensez tout le temps aux autres. Vous vous investissez constamment. Ce n'est pas parce que vous avez naturellement plus d'amour fraternel que d'autres que vous devez nécessairement vous arrêter là. Vous pouvez encore repousser vos limites dans ce domaine aussi. Dans quel domaine pouvons-nous constamment faire davantage? Comment pouvons-nous nous dépasser et progresser? Verset 13. Afin qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Chapitre 4. De plus, frères, nous vous supplions et vous exhortons par le Seigneur Jésus, afin que, comme vous avez reçu de nous la manière dont vous devez marcher et plaire à Dieu, vous abondiez de plus en plus. Nous sommes censés abonder de plus en plus dans la vie. Grandir constamment. Ne jamais nous contenter de là où nous en sommes. Oui, nous sommes censés être satisfaits en toute chose, que nous traversions des épreuves ou que nous connaissions la prospérité, mais en même temps, nous sommes censés chercher constamment à grandir. Grandir signifie que nous ne nous contentons pas de supporter la pression ou l'inconfort une ou deux fois, puis de nous arrêter. Nous devons le faire sans cesse. Vous vous souvenez où il est dit chaque jour? Nous devons souffrir chaque jour. Tous les jours. Maintenant, réfléchissez. Pensez aux muscles physiques. Nous en avons tous. Les hommes ont des muscles plus développés que les femmes. Ne dites pas cela à la société d'aujourd'hui. Elle ne sera pas d'accord avec vous. Mais les muscles se développent quand on les fait travailler. Eddie Hall, regardons-le simplement faire son soulevé de terre. Il n'est pas arrivé là où il est en acquérant soudainement cette force colossale. Il a travaillé pour y parvenir. À un moment donné, soulever 465 kg lui semblait à sa portée. On pourrait même dire que c'était facile. Ce ne serait facile pour aucun d'entre nous. Mais plus il sollicitait ses muscles, plus il gagnait en force, et il devait alors repousser encore plus loin ses limites. Il n'a cessé de se dépasser. Il a continué à aller plus loin. C'est le principe que vous et moi devons appliquer dans notre vie chrétienne. Nous devons faire de même. Nous devons constamment repousser nos limites. Car à terme, si vous avez l'habitude de soulever un poids de 30 livres, ce poids de 30 livres ne vous semblera plus trop difficile. Vous devrez passer à 35 livres. Vous devrez passer à 40 livres. À terme, 40 livres ne vous sembleront plus trop difficiles. Vous pourrez alors passer à 45 ou 50. Alors qu'auparavant, l'idée de soulever 45 ou 50 livres vous semblait tout simplement impossible. Je n'y arriverai pas. Vous y arriverez si vous y travaillez. Pas à pas. en augmentant constamment et progressivement. Passons au chapitre 19 de Luc. La parabole des talents. Bien sûr, cela est une application prophétique, mais examinons les principes qu'elle contient. Comment ils s'appliquent à nous aussi? Luc 19, verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance partit dans un pays lointain pour recevoir un royaume et revenir. Il appela ses 10 serviteurs, leur remit 10 mines et leur dit, « Faites-en profit jusqu'à ce que je revienne. » Que font-ils de ces mines? Mais ses concitoyens le haïssaient et envoyèrent un message à sa suite, disant, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Et il arriva, lorsqu'il revint, après avoir reçu le royaume, qu'il ordonna que ses serviteurs à qui il avait donné l'argent fussent appelés auprès de lui, afin de savoir combien chacun avait gagné en faisant du commerce. Qu'avez-vous fait de cet livre? Qu'ont-ils fait? Comment l'ont-ils géré? Ont-ils pris cet livre et repoussé les limites, dépassé le plafond, été au-delà de l'attendu, trouvant tous les moyens possibles pour faire fructifier cet livre? Ou l'ont-ils gardé, assis sur leur canapé, menant une vie confortable, essayant simplement de s'intégrer à la société, sans rien en faire? Nous savons tous ce qui se passe. Nous connaissons tous le sort de ceux qui ont fait fructifier leur livre et de ceux qui ne l'ont pas fait. Certains en ont reçu 10, certains l'ont multiplié par 10, ils ont donc obtenu 10 villes, certains l'ont multiplié par 5, ils ont obtenu 5 villes. Et le dernier, il a décidé de ne rien en faire, et il a tout perdu. Alors, quelle est la leçon à en tirer? Et comment cela s'applique-t-il à une progression graduelle? Eh bien, notre objectif dans la vie ne devrait pas nécessairement être, si l'on prend la parabole des talents comme exemple, notre objectif dans la vie ne devrait pas être d'emblée, « je vais devenir une personne à 10 talents. Je pèse bien plus de 10 livres, mais je vais devenir une personne d'une livre, puis de 2 livres. Je vais prendre la livre que j'ai, je ne vais pas viser les 10 d'emblée, je vais viser les 2. » Une fois que vous vous êtes habitué à repousser vos limites raisonnables et que 2 livres sont désormais faciles, je vais viser 5, je vais viser 3 ou 4. On ne devient pas quelqu'un qui pèse 10 livres pour recevoir 10 villes simplement en sautant et en recevant tout d'un coup 10 livres. Parce qu'ils ont travaillé pour y parvenir, ils ont progressé, ils se sont développés, ils se sont poussés au-delà de leurs limites. C'est comme monter une échelle, si vous voulez. Ce n'est pas comme sauter sur un immeuble, il faut monter l'échelle. Petit à petit, nous devons repousser nos limites, et cela deviendra facile. C'est comme s'étirer dans la vie réelle. Vous savez, quand vous avez un tendon d'Achille tendu, vous ne pouvez pas devenir soudainement très souple, vous risqueriez de vous déchirer quelque chose. Vous pouvez l'étirer, puis l'étirer un peu plus, et ensuite, quand vous devenez un peu plus souple, vous l'étirez encore plus. C'est ainsi que fonctionne la vie, c'est ainsi que tout fonctionne. Et il en va de même pour notre caractère. Les chrétiens devraient chaque jour se pousser hors de leur zone de confort. Trouver de petits moyens d'en faire plus, de consacrer davantage de notre temps aux autres, pour les autres, ou pour l'œuvre de Dieu. Comment passons-nous notre temps? Que faisons-nous de notre temps? Ce sont des choses concrètes que vous et moi pouvons changer efficacement si nous sortons de notre zone de confort. Nous pouvons utiliser notre temps comme bon nous semble. Comment l'utilisons-nous? Décidons-nous, en ce moment, je vais vraiment utiliser ce temps non pas pour quelque chose qui n'est pas profitable, mais je vais l'utiliser de manière profitable. Je vais étudier. Je vais prier. Je vais sortir et servir. Je vais aller aider quelqu'un. Je vais décrocher le téléphone et appeler l'un des frères. Je vais réfléchir à des moyens d'aider l'œuvre de Dieu. Que faisons-nous de notre temps? Trouvons de petits moyens de faire des sacrifices et, au lieu de dépenser de l'argent, nous en avons parlé plus tôt, dépensons cet argent pour aider l'un des jeunes de Dieu à se rendre à son camp ou autre chose. Réfléchissez à toutes les façons dont nous pouvons collecter des fonds, dont nous pouvons faire avancer l'œuvre de Dieu. Peu importe le temps qu'il nous reste. Nous avons aujourd'hui pour travailler, et Dieu voit votre attitude. C'est ce qui importe le plus. Quelle est votre attitude? Si notre attitude est « je vais faire un sacrifice maintenant, aujourd'hui ou demain, afin de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'œuvre de Dieu », est-ce que je le fais ou est-ce que je laisse passer cette occasion? Trouvez de petits moyens d'améliorer tous les aspects de votre vie. Imaginons que nous ne soyons pas très propres, par nature, ou bien organisés. Si nous ne sommes pas propres ou organisés, nous savons que nous avons peut-être des lacunes dans ce domaine. C'est peut-être quelque chose que nous avons constaté lors de l'examen pré-Pâques. Que faisons-nous pour changer efficacement? Quelque chose d'aussi simple que, avant de me coucher, est-ce que je passe 5 ou 10 minutes de plus avant d'aller me coucher? Au lieu de rester assis sur le canapé, est-ce que je me lève et commence à faire un peu de ménage? 5 ou 10 minutes, c'est tout ce qu'il faudrait. Et si vous faites cela chaque jour, imaginez à quel point votre maison pourrait être plus propre. Imaginez à quel point vous seriez plus organisé. Vous vous réveilleriez et vous vous sentiriez vraiment bien, plutôt que de vous réveiller dans le désordre. Comment pouvez-vous améliorer les aspects de votre mariage ou de votre relation avec vos enfants qui vous posent problème? Que pouvons-nous faire? Quelles petites choses pouvons-nous faire bouger les choses et nous pousser hors de notre zone de confort? Si nous ne sommes pas doués pour gérer nos finances, que faisons-nous pour changer cela? Il y a des sermons, des brochures, toutes sortes de ressources disponibles en ligne sur rcg.org pour nous aider à changer. Je vous garantis que les meilleures questions, les réponses simples et notre slogan. Tapez dans la barre de recherche tout ce que vous souhaitez apprendre. Comment mieux gérer mes finances? Il y a des articles phares, tout ce qu'il faut, il y a des sermons. Quoi que vous cherchiez, frères et sœurs, vous y trouverez des réponses. Si vous ne prenez pas suffisamment soin de votre santé, il existe des moyens de vous améliorer. Changez vos habitudes alimentaires, modifiez votre régime, adaptez votre activité physique, etc. Alors, mes frères, nous n'essayons pas, vous et moi, nous n'essayons pas de devenir le prochain Roger Bannister. Ce n'est pas ce que nous visons. Nous essayons de devenir quelque chose de bien plus grand que cela. Notre objectif n'est pas d'accomplir quelque chose d'aussi modeste que de courir le mile en moins de 4 minutes ou de soulever 500 kilos. Ce n'est rien comparé à ce que vous et moi pouvons accomplir si nous nous y mettons vraiment. N'oubliez pas que nous devons commencer par demander l'aide de Dieu et nous appuyer sur lui, et lui seul, pour qu'il nous donne la force, la volonté et la capacité de changer et de nous dépasser. Et tout comme ce muscle dont nous avons parlé, qui s'habitue à soulever un certain poids, lorsque nous prendrons l'habitude de nous dépasser à petite échelle, nous découvrirons que nous pouvons en faire de plus en plus. Je terminerai donc par ceci. Allons-y et sortons de notre zone de confort.